La Petite Radio.
Salut à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio, épisode numéro 30 et je suis toujours avec Tiffen.
Eh oui Dorsa, eh oui.
Quel bonheur.
Pour la 29e fois.
29e
fois, nous sommes ensemble.
Bon, alors ce soir, on devait enregistrer avec Fernando, notre bel Argentin. Malheureusement, je pense qu'il y a eu un petit problème technique ou un petit problème, mais...
Nous espérons qu'il n'est pas grave.
Voilà, parce qu'on n'a pas pu l'avoir au téléphone, mais on l'aura très bientôt, c'est promis. Alors, le sujet du jour, Stéphane, nous allons parler aujourd'hui de gastronomie. De gastronomie, évidemment. Donc, nous parlerons culinaire, donc ce plaisir de la table.
Ah, parce qu'il faut préciser, parce que si tu dis gastro et culinaire...
Ouais, c'est ça. Donc, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est un plaisir de la vie, en fait.
Bouche.
Donc, voilà, de la bouche, mais même de la... Je trouve que c'est... Ah, moi, je peux difficilement m'en passer. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais les nanas qui mangent 3 feuilles de salade sans sauce. Vraiment, c'est un truc qui me dépasse parce que je trouve que c'est vraiment
dommage. Bon, écoute, moi dommage, qui suis top modèle et qui rentre dans une taille 34, si, je comprends très bien parce que t'as le choix entre la rucola, la laitue, la comment ça s'appelle. Enfin, t'as une variété de feuilles de salade très très bonnes. Hein.
C'est vrai. Il faut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas, qui portent aucun intérêt à la nourriture, donc aux mille saveurs, aux différents goûts qui régalent nos papilles. Et c'est vraiment dommage parce que cette déclinaison de saveurs, c'est un art.
Tout voilà. À fait.
Un véritable art. Alors, si on parle de gastronomie, ça nous renvoie bien sûr au luxe, obligatoirement, parce qu'on parle de coûts élevés des mets, aux techniques bien précises quant à l'élaboration des plats de haute qualité. Alors, c'est sûr, dans un 3 étoiles, on ne va pas manger un simple jambon beurre.
Bon. Non. Voilà. Alors, il faut préciser pour ceux qui peut-être ne sont pas au fait
tout.
Non, les 3 étoiles, donc quand on parle de 3 étoiles, c'est les 3 étoiles du guide Michelin,
voilà, mais on va en parler
des meilleurs
après.
Restaurants mondiaux. Oui. Donc est...
Voilà, moi je vous expliquerai un peu mieux les étoiles Michelin. Alors pour moi, la gastronomie, c'est l'explosion des saveurs en bouche. C'est un peu la découverte, quoi. C'est le mariage des ingrédients, le résultat final dans l'assiette. Et c'est vrai que la présentation des plats a son importance quand on est dans un gastro.
Nomique. Toujours. Ce que je voulais dire, c'est que c'est assez marrant. C'est vrai que un jour, en expliquant à mes enfants que c'est pas parce qu'ils aimaient pas la courgette et que d'un autre côté, ils aimaient pas le poulet, qu'ils aimeraient pas la courgette avec le poulet. Parce que je leur dis, écoute, c'est comme dans une peinture. Tu prends du jaune,
voilà,
qui est donc la courgette, pour suivre mon exemple. Tu prends du bleu, le poulet,
ouais, ça donne
et
du
tu les mélanges. Peut-être que tu aimes ni le jaune ni le bleu, mais tu aimes le vert.
Oui, mais les enfants, ils aiment pas mélanger, c'est
non,
normal.
Et mon mari m'a fait une réflexion. Donc mon mari, qui est uruguayen, il m'a dit, ça, c'est bien un truc de français de faire ça. Parce que c'est visiblement, lui, il n'aurait jamais pensé prendre cette alternative de comparer à la peinture.
C'est un bon exemple, je trouve.
Ouais, la multiplication des couleurs, finalement.
Bon, on va plutôt parler gastronomie, quand même, dans ce podcast. Alors, je trouve qu'en Europe, on est quand même plutôt chanceux au niveau du culinaire, de ce qu'on propose, de ce qu'on mange. Par exemple, en France, en Italie, notamment. C'est vrai qu'en arrivant en Uruguay, donc je suis arrivée il y a 3 ans, alors, si on aime la grande cuisine, c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu déçu. Alors, j'essaye de mettre un peu de dentelle là-dedans.
Encore, c'est pas arrivé il y a 15 ans.
Il y a 15 ans, j'imagine que ça tournait vraiment autour des chivitos. Donc, chivitos, si jamais, je vais quand même expliquer aux gens qui ne savent pas forcément ce que c'est. C'est des sandwichs, en fait, si tu veux, avec de la vraie viande, donc entrecôte dedans.
C'est le hamburger local, oui, mais avec pas de la viande hachée, voilà, mais sinon un vrai steak.
Un
onglet de bœuf.
Voilà.
Et avec de l'œuf, des tomates, du jambon, du bacon, enfin, plein de choses. C'est bon. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout la même philosophie autour de la nourriture. C'est-à-dire qu'ici, ils aiment les goûts purs, on va dire, la viande. Mmh. Ils aiment la viande.
Alors, ça, c'est vraiment vrai. On en a assez parlé dans les podcasts précédents. L'Uruguay, l'Argentine, tout ça. On va plus parler de l'Uruguay parce qu'on habite quand même ici. L'Uruguay, tout tourne autour de la viande, effectivement, de l'asado. Donc, asado, c'est les barbecues, en fait. Donc, on fait cuire sa viande sur le barbecue. Mais là où j'ai été quand même un peu déçue, c'est que moi, moi, j'aime beaucoup la viande crue, donc les steaks tartare, quand ils sont bien faits. C'est quand même assez agréable de manger. Mais ici, ils sont pas du tout branchés viande crue. C'est pas grave.
Hein, saignante. En fait, c'est viande bien cuite.
Alors, vraiment, c'est.
Si alors, c'est vrai qu'il y a des morceaux, par exemple, il y a un morceau, en fait, c'est même les coupes de la viande. Ça, c'est intéressant. On pourrait faire un épisode que sur la viande. La coupe, par exemple, des côtes, c'est une coupe verticale, pas horizontale, comme on fait chez nous. Donc, l'assado de tira, qui est en fait un bout d'os, un bout de viande, un bout d'os, un bout de viande, un bout d'os, un bout de viande, un bout d'os, un bout de viande. C'est vrai que saignant, c'est pas bon. Moi, j'ai goûté, c'est pas bon, c'est mieux bien cuit. Ouais. Mais ils aiment la viande vraiment, telle que, donc voilà. Elle se sert sans sauce. Vraiment. Moi, si j'ose, chez moi, d'ailleurs, je ne le fais pas, parce que ça risque d'arriver, de faire un conflit diplomatique, demander à mettre de la moutarde. Alors là, non. Donc, c'est sans sauce et accompagné, en général, d'une salade tomate fraîche et salade
parce que c'est comme ça que tu dégustes mieux la viande, quand même. Voilà. Hein, parce que si tu commences à mettre plein de purées, plein de trucs, tout ça,
je me rappelle, donc, de mon chef, quand j'habitais en Argentine, qui me disait, non, mais vous mettez de la sauce pour cacher le goût,
donc
le mauvais
goût.
Quand
ils voulaient dire vous, les Français.
Donc, vous mettez de la sauce pour cacher le fait que votre viande, elle est dégueu. Donc, ce à quoi j'avais quand même rigolé, hein, parce que bon, à l'origine, c'est peut-être sûrement ça, puisqu'on dit que les Indiens, par exemple, ils mettent beaucoup d'épices pour un peu tuer aussi les microbes et tout ça.
Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ici, en Uruguay, c'est vrai, il n'y a pas de sauce. Ils ne mettent pas de sauce, quoi. Tu sais, juste avant, on parlait justement des étoiles Michelin, et je voulais en parler quand même un petit peu plus. Parlons un peu des chefs étoilés, donc qui se trouvent un peu partout dans le monde. Alors si je me trompe pas, hein, j'espère que je me trompe pas, il y a des chefs étoilés dans 24 pays du monde qui sont notés par le guide Michelin. Alors pour la petite histoire, ce guide, aussi appelé le guide rouge, a été créé en 1900 par les frères Michelin. Alors, il faut savoir que les frères Michelin, à la base, c'était des fabricants de pneus. Enfin, tu sais, les bibendums, là, les pneus Michelin. Quoi. Alors, au début, c'était un guide gratuit, publicitaire.
Saint-Étienne Forever ou alors Clermont-Ferrand. Enfin, bon, l'Auvergne, quoi.
Ah ouais.
C'est
la Alors, donc au départ, c'était vraiment un guide gratuit, publicitaire, offert à l'achat des pneus, en fait. Et c'était dédié aux automobilistes, aux garagistes, tout ça. Vraiment, je crois que le premier exemplaire a été tiré à 35 000 exemplaires. Et c'est après que c'est devenu fameux. Donc, c'est seulement en 1920 que le guide est vendu. Donc là, ils ont commencé à vendre les guides. Et là, à ce moment-là, apparaissent les premiers restaurants dans le guide Michelin. Et aujourd'hui, c'est le guide de référence consacré aux hôtels, aux hébergements et aux restaurants dans le monde. Alors, une étoile au Michelin, c'est la récompense la plus convoitée par les chefs cuisiniers professionnels. Chaque année, le guide sélectionne et décerne un maximum de 3 étoiles, donc ça ne va pas au-delà, c'est 3 étoiles max, aux établissements. Si jamais pour mieux comprendre, alors une étoile Michelin, ça veut dire une très bonne cuisine dans sa catégorie. 2 étoiles Michelin, c'est une cuisine excellente. 3 étoiles Michelin, c'est une cuisine remarquable, dont le voyage vaut le détour.
Voilà. C'est dans le même principe en fait, que les guides verts de tourisme ou les sites touristiques sont aussi classés en 1, 2, 3 étoiles. Et les 3 étoiles, c'est aussi vol détour.
Ouais, en fait, c'est ça.
Alors,
exactement.
Je ne sais pas si tu veux en parler après, mais pour avoir été dans des restos étoilés, je sais qu'en fait, ce qui met beaucoup de pression aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement la qualité de la cuisine qui importe pour obtenir les étoiles, mais il y a énormément le service.
Le service, l'accueil, tout ça.
Voilà, c'est ça.
Justement, donc, je voulais en parler
après.
C'est
monter,
ça.
En fait, un restaurant 3 étoiles, il va avoir une excellente cuisine et en plus un service exceptionnel.
Voilà, donc le service soigné, l'espace entre les convives doit être respecté. Enfin, il y a vraiment plein de choses. La qualité des produits, la fraîcheur des produits. Vraiment, ils regardent tout. En fait, c'est des inspecteurs en général anonymes. Ils regardent un peu comment ça se passe, ils dégustent les plats. Ils viennent manger dans ces établissements. Et effectivement, comme tu le dis, ils regardent tout. Hein. C'est vraiment, ils regardent les ingrédients, la présentation des plats et tout ce qui va avec dans l'établissement, évidemment. Pour devenir un chef étoilé Michelin, il y a des étapes, évidemment. Donc, c'est pas, on se réveille pas un matin en disant « Demain, je suis chef étoilé Michelin ». Non, ça se saurait. Donc, il y a des étapes à respecter. Alors, on peut suivre des cours dans une école culinaire réputée. On devient commis 3, commis 2, commis 1, puis junior chef, senior chef, sous-chef et enfin chef cuisinier. En fait, c'est
pire que l'armée, hein.
Ouais, c'est non mais ça rigole pas. Hein. C'est vraiment. Alors, un amateur commence encore plus bas. En tant qu'auxiliaire, il commence même en tant que plongeur, et au fur et à mesure, il va gravir les échelons. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Je pense que quand tu crées ton restaurant toi-même, c'est peut-être un peu différent après.
C'est beaucoup plus dur, mais effectivement, mais il faut quand même connaître le, ah oui, le oui. métier. Hein. Je pense que c'est quand même très difficile.
Mais en fait, il y a
débarquer.
Un film quand même. C'est grâce à mes enfants, mais quand même un film qui est assez intéressant. Où on
Ratatouille.
Voit... Exactement.
J'ai adoré.
Non, mais on voit la vie dans une cuisine et c'est justement l'exigence de
l'inspecteur qui
de
est là,
de propreté et tout ça, et à quelle la pression, parce qu'en fait, je crois que bon, le personnage de Lousteau. Si je me rappelle bien que le chef, il s'appelle Lousteau, est inspiré de, d'un grand chef étoilé qui a mal vécu justement la pression.
C'est ça. Et la pression, bah, je voulais en parler aussi. Il y a aussi l'envers du décor. C'est-à-dire que gagner une étoile, c'est très bien, mais en perdre une, ça peut être terrible aussi pour beaucoup de chefs, parce que c'est le fait d'être rétrogradé, en fait, c'est un véritable échec pour eux. Il y a une telle pression... un tel stress en fait dans ce métier, parce que finalement tu te dis pourquoi
il faut que tout soit parfait,
mais
en fait.
Tout doit être tellement parfait, et le fait de perdre une étoile c'est un peu le c'est l'horreur quoi, c'est une tragédie,
c'est un
en fait
hein.
C'est ouais, voilà, et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Bernard Loiseau en 2003, donc il a mis fin à ses jours, il a perdu sa troisième étoile. Ou encore c'est arrivé au chef franco-suisse Benoît Violier, décédé à seulement 44 ans. Il dirigeait le restaurant à Crissier, l'hôtel de ville, et il a mis fin à ses jours aussi.
Ah oui,
oui. Il y a pas longtemps, je crois, il y a un ou deux ans, et très récemment, Sébastien Bras, je crois il y a deux mois, il a renoncé à paraître au guide Michelin et a donc renoncé à ses étoiles.
Il a demandé, ouais.
Il a demandé, renoncer, voilà, ouais. Il a demandé à renoncer.
Guide
donc
guide Michelin
ne...
lui ont répondu que en gros ils allaient voir, parce que je crois qu'ils comprenaient sa demande.
Ah, ils comprenaient sa décision, parce qu'il est quand même triplement étoilé, hein, oui. Sébastien Bras, donc c'est pas rien, mais il parle aussi beaucoup de cette pression en fait.
Oui. Voilà, et du coup, ça le bloque dans sa créativité.
Exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, selon certains analystes, la perte d'une étoile au guide Michelin peut entraîner une baisse de 40% dans les recettes. Hein. Moi, ça me paraît énorme hein, quand même, hein, de perdre 40% de tes recettes.
Ça
ne
m'étonne pas, parce que finalement, il y a quand même aussi les gens, les clients, il y a une certaine clientèle qui veut faire de l'étoilé. Et qui veut faire tous les trois étoilés, par exemple. Mm-hmm. Moi, j'en connais qui, pour se faire vraiment plaisir, se font des trois étoiles. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de trois étoiles Michelin. J'ai fait des étoilés. J'en ai fait un... Il y en a deux qui m'ont apporté énormément de plaisir gustatif. Un à Jurançon, à côté de Pau, qui s'appelle Chez Ruffet, qui maintenant, je ne sais pas s'il a... Enfin, à l'époque où j'y étais, il avait deux étoiles. Et après, je sais qu'il avait été rétrogradé en une étoile. Mm-hmm. Et maintenant, je ne sais pas où il est. J'ai trouvé tout excellent. Alors, c'était le premier restaurant étoilé que je faisais. Mais c'était voilà, le menu gastronomique à 7 plats, des verres, entre les trucs. Donc, en plus,
le niveau est élevé, évidemment.
Oui, mais après, j'en ai fait d'autres, deux étoilés, que j'ai trouvé extrêmement bon, mais pas... Alors que celui-là, vraiment, j'avais trouvé extraordinaire. Et l'autre, c'est à Tokyo, c'est un restaurant de sushi dans le quartier de Roppongi qui s'appelle Nakamura, où là, je me rappelle, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire,
les saveurs que tu as en bouche.
Oui, mais pourtant, c'est simple, hein, c'est du poisson. Et justement, par exemple, il te dit, je vais pas forcément te mettre de la sauce de soja et du wasabi sur ce poisson-là parce que ça va pas. Donc, en gros, c'est un bout de poisson, alors divers, même du poulpe, par exemple, que a priori, moi, j'aime pas le poulpe. Et tu manges ça, et honnêtement, je poussais des petits cris de plaisir.
D'extase.
Non, mais vraiment, j'étais là. C'est bon.
Bah oui, parce que tout est travaillé en fait.
Voilà.
Il n'y a pas tout qui se marie. Quand même, hein.
Et je garde un souvenir ému, et du coup, je voudrais dédicacer ces petits moments à Thomas et Marie qui m'ont gentiment invité.
Est-ce qu'ils nous écoutent?
Oh, je sais pas, peut-être. La maman de Marie, je crois que oui. Donc, ce restaurant, donc Nakamura à Roppongi.
Sinon, moi, je voulais parler de la nouvelle référence gastronomique mondiale. Ça s'appelle La Liste. Donc, la dernière liste qui est sortie, c'est la liste 2017. Donc, c'est en fait un classement mondial des 1000 meilleurs restaurants dans le monde. Alors, le fondateur, c'est Philippe Faure. Et la première publication de la liste est sortie en décembre 2015. Donc, ça fait 2 ans que ça existe. Et en fait, c'est si tu veux, la liste, c'est un concentré de tous les guides qui existent, donc Goemio, voilà, guide Michelin.
Ah oui, il y a plus, Goemio, c'est ouais, vrai aussi.
Ouais, donc c'est donc un concurrent.
Plus Zabat, de... non, aussi, c'est pas. Il y en avait un américain, je crois, qui donnait des bons restaurants.
Alors là, dans ce cas-là, peut-être qu'il fait partie, parce que là, vraiment, ils prennent plusieurs sources, plusieurs guides, et c'est concentré en un seul. Et ils prennent aussi TripAdvisor, New York Times. Et pour info, dans la liste 2017, le meilleur restaurant du monde, c'est celui de Guy Savoy à Paris. Guy Savoy a succédé à celui de Crissier, dont je parlais, de Benoît Vieulier, qui malheureusement n'est plus là. L'année d'avant, c'était justement ce restaurant à Crissier. Aujourd'hui, c'est Guy Savoy. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est pour ça que je voulais avoir Fernando aujourd'hui, c'est qu'il me semble...
qu'il y allait plusieurs fois.
Quand même plusieurs fois sur les réseaux sociaux, il nous dit qu'il est chez Guy Savoy en train de manger ses plats.
Voilà, parce que le pauvre Fernando, il nous dit qu'il connaît pas beaucoup de restaurants à Paris, mais bon,
il connaît juste les meilleurs, quoi. Voilà, donc les meilleurs du monde, hein. C'est même pas les meilleurs de Paris, hein. C'est les juste. En fait, Fernando était dans le meilleur restaurant du monde, donc je trouvais intéressant d'avoir un peu son avis, enfin ce qu'il a bouffé, quoi, ce soir-là. Bon, peut-être qu'une autre fois il nous en parlera. En deuxième position, c'est au Japon, le Kyo Aji ex-aequo avec le Bernardin à New York. En troisième position, ouais, je ne vais pas faire tout le classement, je vais m'arrêter au troisième. En troisième, on a Alain Ducasse, donc évidemment ultra fameux, ouais, au Plaza Athénée de Paris, ex-aequo avec trois autres restaurants, dont un en Espagne. Bref, voilà. Donc la liste, c'est un peu ça. C'est aussi la nouvelle référence gastronomique. Le Japon a une place importante puisqu'il est représenté avec 116 restaurants dans cette liste quand même. La France avec 113.
Justement, enfin, toujours cette magnifique copine Marie qui a vécu, qui est française, qui a vécu au Japon et aux États-Unis. Ensuite aux États-Unis, maintenant qui est à Londres. Finalement, quand elle a débarqué aux États-Unis, elle trouvait qu'il y avait, en tout cas au niveau de la gastronomie et du goût pour la bonne bouffe et la subtilité des saveurs et l'importance de manger ce plaisir gastronomique, il y avait plus de points communs finalement entre le Japon et la France qu'entre la France et les États-Unis, par exemple.
Ah oui.
Alors, au Japon, c'est intéressant. Oui, là, il y a une variété en fait de la gastronomie japonaise. Quand on va au Japon, en fait, il n'y a pas du tout que du sushi.
Ah ben non.
Le sushi, c'est un point, mais il y a plein d'autres choses.
Mais c'est vrai. Hein.
C'est très varié suivant les villes, les régions. Et puis ils ont même cinq saveurs. Ils ont l'unami, qui est un peu le fade. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que c'est une saveur que nous on n'a pas. Nous on a sucré, salé, acide, amer, et eux ils ont une cinquième saveur et en fait un plat est parfait quand il contient ces cinq saveurs.
Là, ils sont forts, hein, les Japonais quand même, hein.
Et surtout au Japon par exemple, le sushi de saumon existe quasiment pas.
Et puis j'imagine, je sais pas, hein, mais parce qu'ici par exemple les sushis, bon, moi j'en commande ici, mais je trouve pas non plus qu'ils sont excellents en Uruguay, mais ils mettent du Philadelphia dans tous les sushis, quoi.
Ouais.
Alors j'imagine qu'au Japon, je suis même pas sûre qu'il mette du Philadelphia.
Je me rappelle plus trop, mais en gros c'est surtout quand même sashimi et nigiri, quoi.
Ben, c'est ce qui est bon, c'est le sashimi, c'est le poisson cru. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a une application mobile, La Liste, qui existe, qui est dispo en 6 langues, et on trouve en fait toutes les adresses du classement en fait. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez télécharger ça gratuitement.
Super. Ben écoutez, moi ça m'a mis l'eau à la bouche.
Bon, on envoie ta chanson.
Ouais. Alors j'ai cru qu'on allait me l'interdire pendant longtemps, mais j'ai réussi. La chanson s'appelle Bleu Lagon, le groupe Mansfield TYA.
Je sais pas pourquoi TYA.
Non, je sais pas. En fait, c'est même Mansfield.TYA.
Ouais, je crois que c'est ça.
À écouter, surtout le vendredi soir avant de sortir, parce que...
Avant de se suicider.
Mais
non,
pas du
c'est
tout.
C'est pas vrai, je rigole.
Je vais faire la fête en crever. Ça veut dire qu'elle a une grosse envie de faire la fête. Toi, t'as trouvé ça suicidaire.
Non, ça va. C'est pas mon kiff, mais écoute, non, mais...
Moi c'est super mon kiff et ça me donne envie de faire la fête, en fait.
Bah, ça tombe bien, je suis là.
Ben voilà.
On lance Bleu Lagon et on se retrouve pour la deuxième partie. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Bleu Lagon, rouge sang, j'ai tellement grincé des dents. Je voulais partir et m'échapper dans un lagon abandonné.
Thank you.
Voilà, on est de retour pour la deuxième partie, toujours avec Tiffaine.
Mais oui, je suis là, ma petite Dorsa.
Pour combien de temps encore, on ne sait pas.
Ouais. Mais
en tout cas, on en profite. Alors, pour le vu sur le net, j'ai vu plusieurs trucs. Enfin, surtout, j'aimerais parler d'un truc. J'ai vu un article dont le titre est Bloody Hour. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, encore une fois? Et en fait, donc, ça fait penser au happy hour qu'on a dans les bars. Tu sais, on commande un drink. On commande un verre.
Oui,
mais...
il fallait qu'il y ait du... Jean-Claude Van Damme a encore frappé.
Non, tu sais, quand tu commandes un verre, bah, t'en as un deuxième gratuit, blabla. Bon, on connaît les happy hours. Et là, en fait, sur l'affiche que j'ai vu « Bloody hour, a happy hour for those with the flow ». Ce qui veut dire « the happy hour » pour ceux qui ont leurs règles, quoi. Enfin, celles, c'est mieux.
Parce que jusqu'à présent, ce grand bénéfice nous est réservé.
Encore une fois, tu vois, on est quand même assez chanceuse. Hein.
C'est génial.
Donc, ça se passe en Israël, à Tel Aviv. Et en fait, c'est deux copines qui ont eu l'idée en Israël d'ouvrir un bar et elles offrent 25% de réduction pour les filles qui entrent dans le bar et elles ont 25% sur les boissons. Alors pourquoi 25%, tu me diras? Parce qu'elles se sont dit que les femmes saignaient 25% du mois.
Bon. Ok, donc bon appétit amis de la bonne, du bon goût, miam miam.
Surtout après la gastronomie, c'est bien. Non, alors elles ont une page Facebook et...
C'est ça, et comment...
Alors justement, tu vas me dire comment prouver que tu as tes règles et pour bénéficier des 25%.
Voilà.
Alors évidemment, à l'entrée, on ne va pas le prouver en baissant sa culotte ou en dégainant son tampon imbibé de sang. Non, leurs règles, enfin leurs règles, c'est un mauvais jeu de mots, je voulais dire les rules,
ouais.
Comment tu dis
Règlement.
En fait, le règlement. Non, en fait, il n'y a pas de règlement, c'est juste elles font confiance à la clientèle. Hein. Donc, si tu dis, voilà, j'ai mes règles.
Si bah, tu as une sale gueule qui était de mauvaise humeur et plein de boutons sur la tête, tu as tes règles.
Alors, je ne sais pas, il faudrait que tu ailles voir, je vous invite à aller voir la page. Alors, c'est Anna Loulou Bar, hein, ça s'appelle, donc ça se passe en Israël. Je ne sais pas s'il y a d'autres bars comme ça dans le monde, mais en tout cas, voilà, elles ont eu l'idée de faire ça. Et 25%, c'est pas mal. Hein.
D'accord.
Donc, si tu as tes règles. Écoute,
va
en Israël, c'est bien. Sinon, après, je me suis dit, allez, je continue sur ma lancée des bars. Sinon, il y a le bar à boutons.
Ça, voilà. C'est pour le bar à acnéique ou quoi?
Voilà, exactement. C'est pour les peaux à problème, les peaux.
Ah, sérieux?
Mais oui.
Ah non, je croyais que c'était un bar pour les boutons, parce que ça existe, un bar mercerie.
Ah non.
Où,
non.
En fait,
non.
Tu vas là, faire c'est... de la couture.
Ouais, non. Là, c'est bar si t'as des problèmes de peau. De boutons, de rougeurs, tout ça. Donc tu vas en Belgique, à Anvers, bah voilà, là-bas tu seras chouchouté autour d'un verre. Donc il y a des spécialistes. Bah voilà, tu parles de tes problèmes de peau, tout ça. Tu auras droit à des soins, machin. Et ça s'appelle le Puistenbar.
Le Puistenbar ou le Puistenbar. Puistenbar. On sait pas bien.
Voilà. Donc ça a été inauguré le 27 octobre. Donc c'est le premier bar à boutons du monde. Tu te fais chouchouter dans une ambiance lounge en fait. C'est un peu l'idée.
Et puis t'es qu'avec des boutonneux à lunettes.
Bah en général, tu vas là-bas, voilà, pour parler de tes problèmes et puis voilà, t'as des experts qui vont t'aider un petit peu. Alors après, je me suis dit, allez, je continue dans les bars et tout ça. Et
ça faisait longtemps, en même temps, qu'on n'avait pas parlé d'alcool,
exactement. Et je me suis dit, bon, alors, allons voir un peu les bars insolites dans le monde. Alors, toi qui étais à Londres il y a quelques mois, alors il y a le Ice Bar. Donc voilà, c'est composé de glace, comme le nom l'indique. Il fait moins 5 degrés, donc il y a des sculptures en glace, voilà, et tu bois ton verre dans les verres glacés, quoi. Enfin,
donc, à y aller, il faut bien se couvrir, quoi.
Voilà, moins 5 degrés, quand même, faut le vouloir.
Sortez couvert, ouais, au Ice Bar.
Exactement. Sinon, en Ukraine, tu as le bar Eternity. En fait, j'ai vu les photos. C'est un bar en forme de cercueil. Mais vraiment...
Sympa,
hein. C'est sympa. Et c'est quand même vachement long, parce que ça, voilà, ça mesure 20 mètres et c'est 6 mètres de haut, quand même. Donc, il faut quand même vouloir aller dans un bar cercueil. Bon. Après, il y a, en Afrique du Sud, le Baobab Tree. Donc, c'est vraiment un bar. C'est dans un arbre qui a quand même plus de 6000 ans, hein, l'arbre. Et puis, c'est assez grand, hein, dans l'arbre. C'est vraiment pas sur l'arbre. Hein,
c'est dans l'arbre, dans le tronc de l'arbre.
Voilà,
en fait.
Exactement. Ils ont créé un bar. Et voilà, ça s'appelle Baobab Tree à Limpopo, en Afrique du Sud.
Très, très bien.
Voilà, donc c'est le plus grand arbre d'Afrique du Sud. Donc, c'est assez intéressant. Et je suis tombée sur un restaurant, ou un resto complètement insolite à Taïwan. Ça s'appelle Modern Toilet. Alors, la déco, c'est une salle de bain géante, en fait. Et les plats, vraiment, il faudrait que tu ailles voir les photos. Les plats sont servis dans des cuvettes. Voilà. Donc, la déco autour, c'est des douches. On s'assoit sur des toilettes. Vraiment, les chaises, c'est vraiment des toilettes. Et les glaces, si tu commandes une glace à manger, c'est servi en forme de crotte. Donc en fait, imagine le truc. Non mais vraiment, j'ai vu des vidéos. En fait, tu commandes ta glace au chocolat. C'est en forme de crotte et c'est servi dans une cuvette de toilette.
Ok. Donc excuse-moi, là, tu as deux thèmes. Tu as évoqué les règles et ouais, le caca. Et
bon appétit. Donc, après les chefs étoilés, je ne sais pas si ça donne envie. En
qu'est-ce
fait.
Qui t'est arrivé, Dorsa?
Je ne sais pas pourquoi je tombais
parce
là-dessus.
Que tes filles, elles ont quand même passé l'âge de pipi, caca, popo. Hein?
Non, mais c'est quand même insolite. C'est un truc de dingue.
C'est insolite. Hein.
Toi, Tiffaine, qu'est-ce que tu as vu sur le net?
Alors moi, coup de cœur pour une affaire qui a déjà presque 20 ans. C'est ça qui est dingue. En fait, j'ai vu deux TED Talks sur le net. Un TED dont je vais vous parler et donc qui traite de cette affaire qui a presque 20 ans. Et un autre qui est un TEDx Rio de la Plata, donc d'une personne en Argentine. Donc la première chose que j'ai vue, les deux traitent en fait du cyberbullying, c'est-à-dire de ce qui se produit maintenant, c'est-à-dire le harcèlement qui se fait via les réseaux sociaux ou via grâce à la massivité finalement d'Internet.
Et ça fait peur, hein?
Ouais, ça fait peur. Alors en fait, c'est aussi un espèce de coup de cœur finalement parce que le TED Talks que j'ai vu qui dure quand même une quinzaine de minutes, et ben figure-toi que c'est Monica Lewinsky qui le fait.
Elle revient sur scène. Non,
ouais,
c'est pas drôle.
Et non mais c'est ça, c'est que justement elle raconte un peu son histoire, mais elle donne sa version.
Ça fait 20 ans, ça.
C'est 98.
La vache. Hein.
Donc, elle revient un peu sur son histoire. Il y a même des moments où, en fait, elle s'émeut parce que elle dit que, voilà, sa mère, tous les soirs, elle était à côté d'elle. Elle ne la laissait pas se doucher, porte fermée, parce qu'elle avait peur qu'elle se suicide, en fait.
Ah ouais.
Parce que, donc, si vous... Bon, pour ceux qui ont... vivaient sur la planète Mars.
Voilà, raconte-nous ce qui s'est passé il y a 20 ans avec Monica.
Donc Monica Lewinsky était stagiaire à la Maison Blanche, elle avait 22 ans et elle tombe amoureuse de son boss. Et il se trouve que son boss est le président des États-Unis, Bill Clinton.
Elle a bien choisi quand même. Hein.
Voilà, et du coup, évidemment, comme on est aux États-Unis et que Bill Clinton, accessoirement, est marié.
Ils sont assez puritains quand même.
Voilà, le scandale sort et... non seulement le scandale sort, mais sort à un moment...
Il n'y a pas que le scandale qui sort, j'ai envie de te dire.
Ouais. Le scandale sort, mais avec énormément de détails, avec des enregistrements de conversations privées, avec des infos super intimes.
Ouais.
Et au moment d'explosion d'Internet. Moi, c'est vrai que si je me rappelle, j'ai eu mon premier mail, je pense, vers 98.
C'est dingue quand tu penses comme ça, c'est vrai.
Et ouais, parce que je m'en rappelais pas, c'est vrai. Elle dit, moi, j'étais la première personne humiliée par Internet et du coup, j'ai été humiliée mondialement. Mmh. Elle dit, on m'a fait écouter mes conversations privées que j'ai tenues, qu'évidemment, j'avais aucune idée de ce que j'avais dit, donc j'avais très peur. Mmh. Et après, ces conversations, elles ont été diffusées à la télé, elles ont été diffusées à Internet, donc finalement, tout le monde a pu entendre mes conneries, parce que finalement, quand tu parles au téléphone, surtout quand tu as 24 ans, 22 ans, Donc, elle dit que ça a été très dur. Bon, je vous laisse regarder, c'est vraiment très intéressant et je trouve qu'elle est super courageuse parce que c'est vrai que tout le monde la connaît. Et tout le monde
connaît à cause de ça. Mais
oui, on a tous en mémoire Monica Lewinsky, celle qui s'est pris un cigare par Bill Clinton. Ouais.
Mais est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue maintenant, là?
Non,
aujourd'hui,
en fait, je voulais regarder ce qu'elle est devenue, mais c'est une belle femme, vraiment.
En fait, elle est toujours stagiaire.
Non, mais je crois que c'était une fille brillante en plus. Mmh. Le pire, c'est que en fait, c'est pas.
Bon, après.
C'est deux personnes qui sont tombées amoureuses. Bon, de manière, c'est adultérin, mais elle était. Je pense plus à Harvard ou quoi. Enfin,
voilà,
c'est
y a pas n'importe qui peut quand même bosser à la Maison Blanche. Hein,
voilà,
donc,
même
voilà.
En mode sévère. Ce qui l'a fait réagir, c'est en 2010. Une autre histoire de cyberbullying dans une fac américaine, là, je me rappelle plus dans quelle fac. Le colloque d'un mec qui le filme à son insu en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre mec. Mmh. Et diffuse cette vidéo dans toute sa fac.
Oh la vache.
Et donc, le mail, bah, évidemment, c'est une vidéo intime. Et puis, en plus, peut-être que cette personne n'avait pas révélé son homosexualité. Donc, il y a un peu une double, mise publique, hein, mise au banc public, on va dire. Et du coup, ce garçon se suicide, se jette d'un pont et meurt.
La pression était donc trop forte.
Ouais, il a eu trop honte, il n'a pas supporté l'humiliation publique. Et en fait, Monica parle avec sa mère. Et en fait, sa mère est très émue par, ce fait divers. Et en fait, elles en parlent et elles se rendent compte qu'en fait, elles revivent, ça leur fait revivre un peu ce qu'elles ont vécu en 98. Et elles se disent, ok, moi je m'en suis sortie. Peut-être que je peux agir pour... on va dire sensibiliser à ce problème. Elle dit maintenant il y a une espèce de culture de l'humiliation où chacun y va de son commentaire méchant, parce qu'en plus c'est quelqu'un de virtuel, donc finalement on n'a pas d'empathie, on n'a pas de compassion. Et en gros son TED Talk, c'est un appel finalement à être plus empathique, à être plus dans la compassion, même avec des gens finalement qu'on ne connaît pas réellement. Et ne pas prendre part à ce harcèlement en ligne. Enfin, j'ai trouvé ça.
Je vais le regarder.
Ouais, et vraiment, je trouve que c'est peut-être un jeu de mots mal placé, mais elle est couillue, quoi. Bravo. Enfin, j'étais admirative.
Je vais regarder alors ce soir.
Et
je regarde.
Deuxième truc que j'ai vu qui est un peu en ligne, c'est aussi du harcèlement via les réseaux sociaux, mais alors ça, c'est encore un peu différent. C'est du harcèlement, ça s'appelle le grooming.
Qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est des adultes, par exemple, qui se font passer pour des adolescents sur les réseaux sociaux, qui ont différents profils.
Et communiquent avec les personnes.
Et communiquent avec des adolescents pour devenir amis sur les réseaux sociaux et pour leur tirer des photos compromettantes. Par exemple, des photos dénudées, des vidéos dénudées. Et la troisième chose, c'est d'arriver à les rencontrer.
Et ils attrapent leurs victimes comme ça, évidemment.
Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que même si ça n'arrive pas jusqu'à la rencontre, qui effectivement peut être grave, là il parle d'un cas très grave où en fait, oui, il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec la gamine, même le fait que ce soit juste virtuel, entre guillemets, si un gamin, il se laisse embobiner, en gros, il se laisse filmer dans des... Après, la vidéo est diffusée sur Internet. Et le problème, c'est que quand c'est sur Internet, eh ben, il n'y a pas grand-chose à faire.
Ben, Internet, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, c'est très, très dangereux.
Donc son message, c'était, c'était aussi, écoutez, nous, avant, quand on rentrait à l'école tout seul, nos parents, ils nous accompagnaient, ils nous montraient le chemin. Et une fois qu'on avait fait 40 fois le chemin avec eux, ils nous disaient, voilà les clés, maintenant tu connais le chemin, tu ne parles pas aux inconnus et tout ça. Il y avait comme une éducation à l'autonomie. Et qu'en fait... Nous, les adultes, on doit, même si c'est pas de notre génération, on doit faire l'effort de se mettre dans les Snapchat. Bon, toi, c'est pas un problème pour toi.
Non. Hein.
De se mettre dans les Snapchat, dans les Facebook, dans les Instagram, dans ce qui intéresse nos enfants, les jeunes, mais nos enfants, pour en gros créer le dialogue gros les accompagner.
Comme ça que tu te rapproches de tes... parce que tu vis avec ça, donc tu peux pas y échapper.
Qu'ils sachent, fais attention, ça a l'air d'être une copine et tout ça, mais fais attention, en fait, on n'en sait rien. C'est vrai que quelqu'un de 12 ans, il peut avoir la naïveté d'y croire. Donc j'ai trouvé que c'était deux choses très intéressantes. Bon, c'est vrai que moi...
Mais comment on le retrouve, là, ce TED Talk ?
Grooming, je pense que si tu mets grooming, c'est TEDx, Rio de la Plata.
Ok.
Et c'est le grooming, G-R-O-O-M-I-N-G. Et l'autre, c'est le TED, TED de Monica Lewinsky.
J'imagine qu'elle n'en a pas fait 15.
Non. Okay. Mais les deux sont... Donc, celui de Rio de la Plata est en espagnol, mais on doit pouvoir...
Ça me fait peur, moi, tout ça. Hein. Je crois qu'on est encore loin avec nos enfants, ça va vite arriver. Hein.
Ouais, mais en même temps, toi, tu maîtrises tout ça, donc tu vas leur...
Je vais leur en parler.
Tu vas les briefer.
Bientôt.
Mais peut-être... Non, moi, je me suis même dit, peut-être que dans les écoles, par exemple, en 6e, ou à l'âge...
Je pense qu'ils devraient intégrer ça.
Un atelier.
Bien sûr.
Un atelier, parce que, comme il y a un atelier de prévention routière, un atelier de...
C'est important parce qu'on vit avec ça, donc c'est difficile d'y échapper. Merci, Tiffany.
De rien, à ton service, avec plaisir.
Bon, on va lancer la dernière chanson. On va se quitter. Continue à nous suivre sur les réseaux sociaux. Faites attention quand même sur les réseaux.
Alors ça, à 15 ans, elle vous attend.
Et donc, bah oui, on va se retrouver voilà, très bientôt pour l'épisode 31. Non, il y aura. Non, je voulais quand même dire aux auditeurs, on va pas dévoiler ce que c'est, mais il y a quelques petits changements à la petite radio. Enfin, un gros changement quand même. On va pas vous dire encore ce que c'est. Je vais attendre. Mais je crois qu'au prochain épisode, on pourra le.
Dorsa est enceinte.
Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, je suis pas au courant. Non, on va vous. Ouais, il y a un gros changement qui va se passer, mais je pense que ça va pas avoir un gros impact sur la petite radio, enfin un petit peu peut-être, mais on vous en dira plus peut-être à l'épisode numéro 31.
Stay tuned. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle ça. Un cliffhanger, tu sais, comme à la fin des saisons des séries, bah, où pouf ça. Est-ce que Monica va embrasser Chandler?
Ah, Monica, non, mais là t'es sûr d'en faire. Moi
ouais,
j'étais sur Levinsky là.
Ah, ouais, bah, oui,
est-ce que Monica va retravailler à la Maison Blanche? Je sais pas. C'est pas sûr, ça. Je pense que sa candidature ne va pas être retenue.
Oh, bah la pauvre, elle a 41 ans maintenant. C'était il y a 20 ans.
Mais justement, elle a appris beaucoup plus de choses depuis. Ouais. Bon, bref, on se retrouve très bientôt et on va écouter...
une petite pépite.
Ouais, voilà, pépite. Et la chanson s'appelle Hiéroglyphe. Enjoy. Et on se retrouve bientôt. On vous embrasse et prenez soin de vous.
Ciao. Ciao. Ciao.